Fais la tête. Un gros doudou. Bonne nuit.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir aujourd'hui, le podcast à destination des parents et des futurs parents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible pour presque tous les jeunes parents, le sommeil. Vaste sujet qui intéressera la plupart d'entre vous. Je pense que tous les jeunes parents, ou presque, ont dû répondre à la question « Il fait ses nuits ?» et ce, parfois même, dès la sortie de la maternité. Alors oui, certains bébés feront leur nuit très rapidement, mais c'est une minorité. Nous allons donc faire le point sur le sommeil de bébé et du jeune enfant. Étant donné qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet, mon invitée, Laura, interviendra sur deux épisodes différents qui sortiront ce mois-ci. Pour ce premier volet, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil des bébés et comment les aider à s'endormir sereinement. Dans le second épisode qui sortira dans 15 jours, nous parlerons plutôt de tout ce qui peut gêner bébé pour s'endormir finalement, ou pour dormir correctement toute la nuit, ou au moins quelques heures d'affilée. Bonne écoute. Bonjour Laura, merci d'être là aujourd'hui pour cet épisode sur le sommeil. Je vais vous demander tout d'abord de vous présenter votre parcours, qui vous êtes et comment vous en êtes arrivée là. Voilà, à vous.
Déjà, je me présente, je m'appelle Laura. Donc, je suis éducatrice de jeunes enfants dans une crèche depuis 2021. En fait, à la base, j'ai été animatrice pendant 5 ans. Puis après, j'ai eu mon fils, ce qui a fait que j'ai bien vu que l'animation, en tout cas les horaires, ne convenaient pas quand on était maman. Il y a une amplitude horaire beaucoup trop importante. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à mon fils les 3 premières années de sa vie. Et puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et mon papa, il me disait tout le temps, mais t'as un feeling avec les petits, il faut que tu travailles avec les petits. Je le croyais pas. Incroyable, je ne le croyais pas.
Ils nous connaissent pourtant très bien, nos papas. Faut toujours les écouter.
Ouais, en plus, c'est dingue. Et c'est la première fois que j'ai travaillé après avoir passé mon CAP petite enfance, donc en VAE, je l'ai fait. Comme j'avais fait assez d'animation et que j'avais assez de contact avec les petits, j'avais le droit, donc je l'ai passé. Et la première fois que j'ai mis les pieds dans une crèche, je suis tombée un jour où il y avait un enfant qui était malade et sur qui il a été en premier pour être réconforté, sur moi, alors que je ne le connaissais pas. C'était la première fois que je le voyais. Donc c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, effectivement, bah il a raison.
Il y avait bien un truc.
Exactement, il y a quelque chose. Et donc après, j'ai cherché un poste un peu plus stable. Je suis tombée dans une super crèche qui n'a cessé de me tirer vers le haut et qui m'a encouragée, pour qui j'ai jamais été juste, je mets des grosses guillemets, une CAP, mais pour qui j'ai toujours été une éducatrice de jeunes enfants. Donc je me suis lancée dans une autre VAE, pour pas changer, pour passer mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. L'avantage, c'est que ça m'a donné confiance en moi et que du coup, de par les difficultés de sommeil que j'ai eues avec mon fils quand il était petit, je me rappelle de nuits où je le suppliais de dormir parce que ça faisait 5 réveils, je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Et des difficultés qu'on avait à la crèche, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose, il faut que j'en sache plus. Donc, j'ai commencé par des lectures. Et après, j'ai choisi de suivre une formation avec donc une infirmière qui s'appelle Audrey Nguyen, qui est infirmière au Canada, spécialisée dans la périnatalité parce que ça fonctionne pas tout à fait comme en France, spécialisée dans le sommeil. Donc, j'ai suivi sa formation qui était absolument passionnante et je conseillais même aux parents parce qu'en fait, je trouve ça dommage qu'on sache pas vraiment comment la structure du sommeil des enfants. On en connaît tellement peu finalement, alors que c'est hyper important et c'est bien dommage. Et j'ai donc eu cette diplôme, cette formation. Et à côté de ça, aujourd'hui, je continue de m'intéresser au sommeil. Je continue de lire, de suivre les dernières avancées scientifiques et tout ça parce que ça me passionne, en fait. Déjà, de base, je suis quelqu'un qui, le sommeil, c'est trop important. Je dors tout le temps. Donc, ça paraissait normal que je continue de me renseigner sur ce sujet-là.
Ça marche. OK.
Alors, bah, déjà, on va commencer un petit peu par faire le point. Un sommeil, on va dire, normal, le rythme, quoi, un peu du sommeil chez le tout petit, ça ressemble à quoi?
Alors déjà, il faut savoir que les bébés, jusqu'à 4 mois, ils n'ont pas la même structure de sommeil que l'adulte. C'est-à-dire que eux, ils vont avoir des cycles beaucoup plus courts. L'adulte, en moyenne, un cycle dure entre 1h30 et 2h. Le bébé, avant 4 mois, ça va durer que 50 minutes à 1h. Ce qui veut dire qu'en gros, nous, la nuit, on se réveille automatiquement. C'est physiologique, c'est tout à fait normal. On se retourne et puis on se rend pas compte parce qu'en fait, étant adulte, on sait se rendormir tout seul. Les bébés ne savent pas encore se rendormir tout seul. Ça va être un apprentissage. Donc, dormir, ils savent le faire parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, je vais apprendre à mon enfant à dormir. » Non, votre enfant sait dormir. Il savait déjà dormir dans votre ventre. Donc en fait, il le sait. Ce qu'il ne sait pas encore faire, c'est se rendormir tout seul. Il a besoin d'accompagnement pour ça. C'est pour ça que souvent, il vous appelle la nuit pour avoir des câlins ou autre. Donc au début, ils ont vraiment une structure de sommeil plus courte. Et au fur et à mesure du temps, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, ils ont un sommeil immature, si on peut dire. Et vers 6-7 ans, ils commencent à avoir la même structure de sommeil que l'adulte.
D'accord. Donc jusqu'à 6-7 ans, c'est normal qu'ils se réveillent la nuit.
Alors, là, encore une fois, ça dépend des enfants. Chaque enfant est totalement différent. On peut avoir un enfant qui va super bien dormir la nuit, comme un enfant qui se réveille, comme le mien, 5 fois dans la nuit. Ça dépend. Malheureusement, chaque enfant étant différent, il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le sommeil. Tout comme nous. Je vais donner l'exemple d'on a passé une journée difficile et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à s'endormir. Bah, tout bêtement parce qu'on a eu tellement de stress dans la journée que on a libéré tellement de cortisol. Il faut savoir que le cortisol, qui est notre pire ennemi pour le sommeil, aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte, eh ben on va avoir du mal à s'endormir. Eh ben les enfants, c'est pareil. Ça va être la même chose. En fonction de ce qu'ils vont avoir vécu dans la journée, en fonction de différents freins qu'il peut y avoir, ils vont plus ou moins bien dormir. Donc vraiment, chaque enfant est totalement différent. Après, je rassure les parents qui nous écoutent, votre enfant, un jour ou l'autre, dormira dans son lit tout seul, il aura plus besoin que vous le berciez. Chacun a son rythme, qui est plus ou moins long. C'est difficile parce qu'en fait, on vit vraiment à une époque où on est en décalé totalement de nos enfants. Les enfants, ils suivent un peu, j'aime bien dire, le soleil. C'est-à-dire que ils se couchent au moment où il fait nuit, ils se lèvent au moment où il fait jour. Nous, on a un rythme de vie qui est pas du tout pareil. On se couche à des heures pas possibles et forcément, quand nos enfants se réveillent, bah, on n'a pas le choix que de se lever aussi, donc on est fatigué. On pourrait se coucher en même temps qu'eux, finalement.
C'était si simple, ça se saurait, mais...
Après, je voudrais insister sur les enfants de avant 4 mois. On parle souvent dans le milieu du quatrième trimestre de grossesse. Parce qu'en fait, bébé, il a été dans le ventre de maman donc pendant 3 trimestres et arrivé au 4e, on comprend pas parce qu'il est tout le temps collé à maman, qu'il veut tout le temps avoir des câlins, qu'il a très faim, qu'il est très fatigué. Enfin voilà, je reçois beaucoup de messages de parents qui me disent « Je comprends pas, mon enfant, il a 2 mois, il veut pas que je le pose. » Alors, je voudrais insister sur quelque chose. Bébé, il a vécu dans un endroit tout cocooning, il était au chaud, il ressentait pas la faim, pas la soif, tout était parfait. Et puis, d'un seul coup, il va être propulsé dans un endroit où il va commencer à ressentir donc la faim, chose qu'il ressentait pas avant, la soif, le froid dans le ventre de maman. Il faisait tout chaud, un peu jacuzzi party. Les bruits sont très, très forts parce que c'est pareil dans le ventre de maman. On entend le cœur de maman, mais on n'entend pas vraiment très fort les bruits extérieurs. La luminosité aussi, elle est quand même beaucoup plus importante. Et du coup, ça fait plein de stimuli qui, le pauvre, l'attaque, entre guillemets. Et puis là, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux dire, là, j'étais bien au chaud, tout était beau, tout était rose dans mon petit cocon. Et d'un coup, je me retrouve dans un endroit totalement inconnu. Pourquoi? Et la seule chose qu'il connaît vraiment, finalement, c'est maman. Et c'est pour ça que il a souvent besoin de rester sur maman ou papa. Hein, parce que là, je dis maman parce que c'est maman qui l'a porté, mais... Et les papas peuvent participer, messieurs, vous êtes invités. Hein. Et c'est vrai que là, c'est une période où moi, je sais que je conseille beaucoup le portage. Parce que ça permet d'avoir les mains libres, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et en même temps, bébé se sent en sécurité, il peut dormir. Franchement, c'est le top. Après, je sais que c'est pas toujours possible pour tout le monde. malheureusement, et qu'il y en a pour qui bah, ça les intéresse pas du tout, et c'est ok. À partir du moment où chacun est d'accord avec ce qu'il fait, moi, je me dis, c'est parfait, quoi, j'ai envie de dire.
C'est vrai que le quatrième trimestre de grossesse, c'est un truc, moi j'en parle souvent, l'histoire du petit jacuzzi, ils sont dans le jacuzzi dans le noir, et après les 3 premiers mois après la sortie, donc le quatrième trimestre, faut qu'ils s'habituent, en fait, au nouvel environnement, et c'est vrai qu'en étant dans les bras, ils retrouvent un peu les sensations qu'ils avaient dans... Bah, dans le ventre. Et donc, c'est sûr que pour le sommeil, quand ils sont dans les bras, ils s'endorment, quoi. Hein. Au départ, il n'y a pas de problème. La difficulté, effectivement, arrive quand on doit reprendre le travail, qu'on a un deuxième, qu'il faut qu'il apprenne à se détacher. Et alors, du coup, comment on fait pour l'aider à s'endormir? Voilà, comment on passe du « on le câline, on le berce, il s'endort dans nos bras, et puis une fois qu'il dort, on le pose et on est OK avec ça. » Et au moment où bon, bah là, c'est compliqué, il faudrait qu'il arrive à s'endormir seul. Est-ce qu'il y a une façon de faire pour l'aider à ce que ça se passe bien?
Déjà, toujours communiquer. Alors, j'entends beaucoup de personnes qui disent « il est trop petit, de toute façon, il comprend rien ». C'est faux. C'est faux. Vos enfants comprennent dès la naissance, communiquez avec eux, n'ayez pas peur de leur expliquer. Si là, par exemple, vous êtes vraiment trop fatigué et que il faut que vous le posiez parce que bah voilà, vous avez besoin de votre temps à vous et c'est OK, vous avez le droit aussi d'avoir besoin de souffler. Parlez avec lui, expliquez-lui là, tu sais, bébé, je suis trop fatiguée, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt m'allonger à côté de toi, je vais t'endormir et après bah quand tu te réveilleras, je serai pas là. Mais expliquez-lui que là ou quand vous allez le poser dans le lit, que vous allez le poser dans le lit. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que déjà quand ils s'endorment dans les bras et qu'après on les pose, souvent ils se réveillent et ils se disent mais qu'est-ce, je suis où? Je me suis endormie dans un endroit, je me retrouve dans un endroit que je ne connaissais pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc du coup, moi, je préconise beaucoup de parler. Après, ce qui peut être intéressant, et ça ne fonctionne pas avec tous les enfants, c'est de les poser dans le lit au moment où ils sont, ce que j'aime bien dire, c'est un peu stone, où ils sont entre deux, ils sont prêts à s'endormir, mais ils sont pas tout à fait endormis. Comme ça, ils voient qu'on les pose où, dans le lit ou peu importe où vous vous posez, hein, mais dans un endroit différent, et ils sont conscients qu'ils sont plus dans les bras de maman. C'est pas toujours possible. Il y en a certains pour qui très 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 dur et pendant longtemps. Chaque enfant est encore une fois totalement différent. Après, ce qui peut être intéressant, c'est moi ce que je dis, c'est qu'en fait bébé, pour qu'il arrive à bien dormir, il faut remplir sa jauge de câlins. Donc juste avant d'aller au lit, on met en place de petits jeux en fonction de l'âge, des moments câlins, des histoires, des petits rituels. Parce que les rituels, c'est ce qui va apprendre à l'enfant à se rendre compte que là, ça va être le moment d'aller dormir. Comme lui, il a pas de montre, il sait pas encore lire l'heure, et ben ça va être un peu sa montre. Les routines et rituels qu'on va mettre en place à la maison, c'est vraiment ce qui va sécuriser l'enfant. C'est hyper important. Et je sais que j'en parle beaucoup sur mon Instagram, aux parents de la crèche et tout, parce que c'est quelque chose qui est primordial. Et même nous, à la crèche, on le met en place pour l'endormissement, mais pour tout, hein. Finalement, les rituels et les routines, c'est pour toutes les activités de la journée. Parce que l'enfant, eh ben, il a besoin de savoir et de préparer son cerveau et de savoir ce qui va se passer. Et si on met en place des rituels, toujours en fonction de l'âge de l'enfant, eh ben, il va se dire, ah, là, je connais, je sais ce qui va se passer après, et du coup, son système nerveux va commencer à sécréter les hormones qui vont mener vers le sommeil. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment 3 choses hyper, hyper importantes pour le sommeil. Ça va être les hormones. Donc, on a la mélatonine, on va dire qu'on recharge la mélatonine quand on va se promener dehors avec nos enfants et qu'ils prennent un plein de vitamine D. On a le cortisol, le pire ennemi pour dormir, vraiment pour tout le monde, adulte comme enfant. Et la température corporelle. Parce que quand on a trop chaud, on le voit bien avec nous, on n'arrive pas à s'endormir, bah, les enfants, c'est pareil. Donc, ce qui peut être intéressant, ça va être les promenades quand c'est possible, hein, parce que c'est vrai que des fois, on a des périodes où il pleut tellement que ça devient compliqué. Les promenades dans la journée pour remplir la jauge de mélatonine. Comme ça, ça va être sécrété correctement le soir. Avant d'aller dormir, il faut que on essaye, et je dis bien essayer, de limiter le plus possible le stress. Donc, en fonction de l'âge, moi, ce que je propose, c'est de parler de la journée de l'enfant. Parce qu'en fait, en tant qu'adulte, des fois, on se rend pas compte, mais il s'est passé quelque chose à la crèche, chez la nourrice, ou quelque chose qu'on a, on n'a pas vu. Parce que nous, on a des yeux d'adulte et on se dit, ça, c'est rien. Alors que pour l'enfant, lui, il va pas dire c'est rien. Et le fait de mettre des mots sur ce qu'il a vécu dans la journée. Et bah, du coup, ça va l'apaiser et il va sécréter la fameuse ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone des câlins et tout, qui va contrer...
Le méchant cortisol.
Exactement, merci.
Je suis.
Ouais, ça, c'est bien. Donc, le moment câlin et rituel, c'est ce qui va vraiment permettre de s'apaiser et de sécréter l'ocytocine, mais aussi la mélatonine. On peut aussi, pour renforcer cette sécrétion, commencer un petit peu à baisser les lumières. À peu près une heure avant d'aller au lit, on met des lumières plutôt chaudes. Comme ça, ça va commencer à travailler. Après, le rituel, comme je disais, hyper important. Ce qu'on peut faire aussi, qui peut être très intéressant, ça va être de proposer un bain pas trop chaud, parce que si l'enfant a trop chaud, c'est pareil, il va avoir du mal à s'endormir, mais l'avantage du bain, c'est que, on le sait, quand on prend un bain, on se détend. Ça dépend des enfants aussi, encore une fois. On peut aussi proposer des massages, si l'enfant est réceptif au massage, pour que pareil, il soit bien détendu. Et après, on instaure notre petit rituel en fonction de l'âge. Avant 12 mois, souvent, je dis une petite berceuse, enfin, on chante une berceuse, ou on met une berceuse si on n'est pas, on n'aime pas chanter.
Si on n'est pas chanteur dans l'âme.
Franchement, les enfants, franchement, ils voient pas la différence, hein. Eux, tout ce qu'ils sont, ils sont contents, c'est d'avoir un moment avec papa, maman, c'est parfait. Peu importe qui chante faux ou pas. Et après, on le berce un peu et on le met au lit. Quand ils sont un peu plus grands, qu'ils sont peut-être un peu plus réceptifs aux histoires, on peut raconter une petite histoire parce que c'est vrai qu'ils aiment bien. Encore une fois, ça dépend des enfants, parce qu'il y en a pour qui, quand on raconte une histoire, ça les, pas les énerve, mais du coup, ils sont tellement intéressés, ils posent mille et une questions, et du coup, bah, le moment du coucher devient encore plus difficile. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, hein. Chaque enfant est totalement différent, donc on s'adapte, et puis on s'adapte aussi à sa, à son mode de vie, parce oui. que, bah, on rentre tard, des fois on rentre pas tard, des fois ça peut être maman, des fois ça peut être papa. Le but, c'est d'essayer le plus possible, c'est de garder le même rituel. Ça veut dire soit on fait, tout le monde fait le même rituel du soir, soit il y a un rituel différent pour papa et maman, mais il faut toujours qu'il soit respecté. Comme ça, vraiment, l'enfant, il sait que ça va être le moment de dormir. Ça va l'aider à rentrer dans la phase de sommeil plus facilement, et c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi. Et pour les plus petits, moi, ce que j'aime bien dire, c'est de faire attention. Donc, le temps d'éveil, ça va être le moment où ils vont jouer, le moment où on va les changer, on va leur donner à manger. C'est le moment où ils sont actifs un peu. Parce qu'en fait, ces temps-là, si le temps d'éveil est par exemple un petit peu trop actif, ça risque d'énerver l'enfant pour aller dormir. Et s'il n'est pas assez actif, il ne se sera pas assez dépensé. Donc, le temps d'éveil, c'est hyper important. Et personnellement, l'ayant testé bah, dans la crèche dans laquelle je suis, les enfants ont droit à tout plein d'expériences. L'ayant testé, c'est vrai que quand on commence à observer son enfant et qu'on voit que par exemple, il se lève, on va dire vers 7h30, il joue. Et puis là, on remarque que vers 9h30, il commence un peu à piquer du nez. Il y a les premiers signes de sommeil. Premier signe de sommeil, ce qu'on remarque le plus, ça va être on se frotte les yeux. Entre les sourcils, ça devient un peu rouge pour les plus petits. On bâille. Mais cela, on va dire, c'est les derniers signes de sommeil. D'accord. Les premiers signes de sommeil, ça va être... Là, l'enfant, il est en pleine action. Il a son meilleur jeu, le jeu préféré avec lequel il joue tout le temps. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il se désintéresse du jeu. Il commence à avoir les yeux dans le vague. Clairement, quand vous voyez ça, et on ne voit pas tout le temps parce qu'il y en a pour qui ça se manifeste pas comme ça, c'est le moment de mettre le rituel en place. C'est vraiment le moment où on va commencer à l'amener à la sieste ou le sommeil du soir, parce que c'est vraiment les premiers signes. Il va juste poser sa tête sur le tapis, par exemple. Ça va être le moment où, enfin, là, c'est l'alerte rouge. C'est parti, on lance le rituel. Hop, 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 tout le monde au lit. Parce que comme ça, en fait, ça sera moins dur de l'endormir. Parce que si on le met au lit qu'il est trop fatigué, bah c'est là que ça va être un peu compliqué et que ça va pleurer plus et qu'ils vont faire des siestes plus courtes parce qu'ils vont être trop fatigués, qu'ils vont louper le train, comme on dit, le train du sommeil. Et que du coup, ça va moins bien se goupiller comme ça le fait d'habitude.
Ok, très bien. Oui, ça c'est après, c'est sur le sommeil, c'est un peu comme quand ils ont faim, quand les mamans qui allaitent, on leur dit de pas attendre qu'ils soient en train de hurler parce qu'ils ont l'impression qu'ils meurent de faim. À ce moment-là, la mise au sein se passe moins bien en général. Donc pour le sommeil, c'est pareil. Faut essayer de repérer les premiers signes. Alors, donc, on vous avait parlé de la température corporelle, mais donc, j'imagine, je sais un petit peu déjà, mais il y a aussi une histoire de température de chambre, voilà, des conditions, on va dire, optimales pour qu'ils dorment bien aussi, par rapport à l'environnement, on va dire.
Alors, on n'arrête pas de dire, il faut que la chambre soit à 19 degrés. C'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, c'est la meilleure température pour bien s'endormir. On couve pas trop son enfant. On s'adapte en fonction de la saison, principalement. Quand on est en hiver, on met une gigoteuse plus épaisse pour les plus petits, une couverture plus épaisse pour les plus grands. Et après, bah voilà, on change la gigoteuse. Mais en plus de ça, il y a vraiment des études qui ont été menées et qui ont montré qu'une chambre, par exemple, qui a été aérée quelques minutes, on va dire trois quarts d'heure, une heure avant d'aller au lit, non seulement ça permet de baisser la température, mais en plus de ça, le fait de le brassement d'air fait que du coup, il y a moins de CO2 dans la chambre et qu'il y a un endormissement qui se fait plus tôt que quand il n'y a pas eu cette aération qui a été faite juste avant de dormir. Donc vraiment, ne pas trop chauffer les chambres. Je sais qu'en hiver, on a tendance à mettre les chauffages à fond, on se dit faut pas qu'il ait froid et tout, mais du coup, ça devient un peu contre-productif parce que l'enfant, il risque de mettre plus de temps à s'endormir. Ce qui peut être bien pour vérifier s'il a froid ou pas, c'est pas de vérifier principalement les extrémités, parce qu'il arrive que quand ils sont petits, les extrémités soient froides. Donc, on vérifie le cou, on peut vérifier le ventre pour qu'il soit chaud, mais les pieds et les mains, souvent, c'est froid. Et du coup, on s'y trompe un peu, on les couvre encore plus, alors que c'est pas ce qu'on veut vraiment, quoi.
D'accord, c'est noté.
19 degrés, et on aère plutôt, en fait, finalement, c'est peut-être mieux d'aérer une heure avant de le coucher plutôt que le matin, finalement.
Oui, bon, après, mais le mieux, c'est vraiment, ouais, avant de dormir, c'est tous les soirs, pour tout le monde, que ce soit les adultes ou aérer vos maisons. Principalement le soir pour faire baisser les températures et aussi bah pour renouveler l'air parce que finalement ça a été fermé toute la journée et donc c'est pas le top.
Ok, très bien. Dans les bonnes conditions de sommeil, est-ce qu'il y a d'autres trucs à savoir particulièrement ?
Donc remplir le réservoir affectif, ça je l'ai dit tout à l'heure. On fait un temps de qualité parce que comme votre enfant va pas vous avoir vu pour beaucoup, on travaille. Normal, quelque part on n'a pas le choix. Donc on travaille. Et donc, en fait, votre enfant, il vous a pas vu de la journée. Donc, pour lui, c'est quelque chose de difficile parce que, étant sa figure d'attachement, c'est pas simple. Donc, vraiment, même si c'est que une demi-heure, c'est mieux que de lui accorder un vrai temps pour lui que, par exemple, de lui accorder une heure, mais en étant pas vraiment là. Ce que j'entends par pas vraiment là, ça va être, je sais pas, allumer la télé, être sur son téléphone, puisqu'on a une ère où on a beaucoup d'écrans, et tout ça. Les écrans, bien sûr, je vais aborder ça après. On fait pas vraiment attention. Et l'enfant le ressent. Même si on a l'impression que non, c'est bon, lui voit rien, il ressent. Il y a même des études qui ont été menées pour les enfants, par exemple, qu'on allait et qu'on regarde pendant l'allaitement, à qui on fait attention, même quand on donne le biberon, qui montre qu'un enfant avec qui on interagit pendant le biberon ou l'allaitement, où il voit mieux, il avoile moins d'air. Enfin, voilà, ça, c'est votre domaine. Juste pour montrer l'importance d'être vraiment, vraiment présent pour que son réservoir affectif soit au top quand il va dormir et parce que comme ça va éviter les réveils qui vont être là pour certains parce qu'il a besoin de papa et maman. Si ça a été rempli avant d'aller s'endormir, il n'y aura plus besoin de le remplir pendant la nuit et du coup, je ne dis pas que ça va régler les problèmes de réveil nocturne, attention, parce qu'il y a certains réveils qui ne sont pas dus à ça, mais il y en a aussi qui sont dus au fait que papa et maman lui ont manqué et que là, il a quand même besoin d'eux. Et puis le sommeil aussi, c'est un peu stressant. Je veux dire, pendant plusieurs heures, on ne voit plus papa et maman du tout. On les quitte pendant un long moment. Et donc, ça peut être pour certains enfants vraiment source d'angoisse. C'est pour ça que le fait de bien verbaliser, de l'accompagner, de remplir son réservoir affectif, ça peut être que bénéfique pour dormir. Après, comme je disais tout à l'heure, les écrans, pas d'écran. Déjà, pas d'écran avant 3 ans. Je sais qu'on vit une époque où il y en a partout. Donc, peut-être... J'impose rien, hein. C'est juste, je parle des études qui ont été menées. Les écrans qui libèrent des lumières bleues, clairement, ça bloque la sécrétion de mélatonine, comme les lumières trop fortes, les lumières des LED. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui va permettre de s'endormir correctement. Donc, si on bloque cette sécrétion, clairement, on va avoir du mal à endormir l'enfant. Alors, c'est vrai que quand on les met devant la télé, ils ont l'air hypnotisés. Ils sont tout calmes. C'est clairement un moment où on peut souffler parce que des fois on a des vies un peu stressantes qui font que on est fatigué. Mais avant de dormir, non, on fait pas. Il y a d'autres moments où on peut le faire, donc fais à ces moments-là, mais vraiment, vraiment pas avant de dormir parce que ça va les gêner en fait.
Et alors combien de temps avant, enfin pour les plus grands, ceux qui ont le droit à la télé, donc après 3 ans, combien de temps avant d'aller se coucher, il faut arrêter les écrans pour pas que ça ait d'effet néfaste sur leur sécrétion de mélatonine ?
Au moins 1 heure. Le mieux c'est 2. Mais au moins 1 heure. Je vous parle de mon expérience personnelle. Mon fils a 8 ans. J'ai eu une période où il y avait la télé avant d'aller au lit et pourtant j'ai fait la formation. Hein. C'est pour dire que des fois, les cordonniers sont les... C'est quoi déjà l'expression ?
Les plus mal chaussés.
Parce qu'il demandait, je me suis dit c'est son moment détente après l'école, voilà, l'école c'est long et tout ça. Et je comprenais pas, c'est bizarre, il avait du mal à s'endormir, 21h, 21h30, alors que c'est un gros dormeur. Et après je me suis dit, mais en fait, Laura, tu mets la télé. Et ben quand on arrête la télé, c'est magique, tiens. L'endormissement, il se passe presque, je dis pas instantanément parce que ça dépend des enfants, mais bizarrement, ça se passe beaucoup mieux. Donc si on peut, 2 heures avant, c'est vraiment le top du top. Si on peut pas, au moins 1 heure avant. Les jeux extérieurs aussi. Le fait, pendant la journée, de bien dépenser les enfants, on l'a vu. Je vais parler d'un moment qui a été difficile à vivre pour tout le monde, pendant le confinement. En même temps, ça nous a un peu servi de leçon. Pendant le confinement, on sortait pas. Et on n'arrivait pas à dormir. Parce que finalement, on voyait pas la lumière du jour, on n'avait pas assez d'exercice. Donc c'est vraiment deux choses très importantes, que l'enfant ou l'être humain soit exposé à la lumière du jour et fasse assez d'exercice. Donc dès que c'est possible, une petite promenade au parc, dans la campagne, peu importe là où vous pouvez finalement, ça permettra de synthétiser du coup la fameuse hormone, la mélatonine, et donc après de la réutiliser correctement le soir. Donc c'est vrai que ça aussi c'est super important, les promenades dehors.
Ça marche. Ok. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Des choses, voilà. Donc, on a dit les écrans, ça, on oublie. Est-ce qu'il y a d'autres choses où on pourrait se dire, j'en sais rien, je sais pas, c'est une bonne idée de faire ça, et puis en fait, c'est totalement contre-productif, quoi.
Oui. Chahuter le soir. Je sais que des fois, on aime bien, les enfants, ils vous retrouvent, ils sont trop contents, et puis, ils aiment bien faire des courses, chahuter un peu avec papa, on fait un peu les foufous et tout. On évite. Alors. Ça dépend encore une fois des enfants. Il y en a pour qui ça a aucune incidence et tout va bien. Il y en a pour qui le fait de chahuter, eh ben ça va les énerver et du coup le fait de devoir les faire redescendre, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc le mieux c'est de chahuter à d'autres moments. Ça oui, vous pouvez chahuter la journée autant que vous voulez avec vos enfants, mais d'éviter de le faire juste avant d'aller au lit. C'est mieux tout ce qui est activité plus calme, plus posée. Ça peut être l'histoire, le chant. Quand ils sont plus grands, il y a des jeux de société qui peuvent être aussi pas mal. Il y en a même qui commencent relativement tôt. Les mémories, ça peut plaire. On se dit, vas-y, on prend 10-15 minutes de mémorie. Le dessin ensemble. Le dessin, ça permet aussi d'un peu extérioriser. Il y a certains enfants qui mettent dans le dessin ce qu'ils ont vécu dans la journée, même si nous, c'est pas ce qu'on voit. Pour eux aussi, c'est comme quand ils nous montrent un dessin et qu'ils disent, là, il y a un avion qui vole dans le ciel. Ah ouais. Moi, j'ai une tâche. Voilà. Ils voient des trucs que nous, on voit pas. Le piège, les écrans, encore une fois, c'est vraiment... ça aide pas du tout. Manger trop copieux, que ce soit pour l'enfant comme pour l'adulte, quand on mange trop, on a du mal à s'endormir. Manger trop tard, ça aussi, c'est pareil, c'est pour nous, c'est la même chose. Finalement, c'est des mini-nous pour certaines choses. Pas pour tout, mais pour certaines choses. Les coucher trop tard. Alors ça, c'est... J'entends beaucoup de... Oui, mais je couche plus tard, comme ça, demain, il va se lever plus tard. Non. Désolée de vous l'apprendre, ça ne fonctionnera pas. Il y en a certains pour qui ça marche quand même. Il y en a, ils ont de la chance, leur enfant se lève plus tard, c'est vrai. Il y en a pour qui, malheureusement, le fait de les coucher plus tard, ils vont se lever encore plus tôt. Moi, j'ai entendu des cas dans mon entourage d'enfants qui, les parents comprenaient pas parce qu'en fait, ils les mettaient au lit vers 20h30, 21h et le réveil était à 5h30. Je leur ai expliqué, vous savez, en fait, j'aime bien dire, le sommeil appelle le sommeil. Plus un enfant dort, plus un enfant dort. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'est pas parce qu'il va être fatigué qu'il va mieux dormir. Bien au contraire. Dans beaucoup de cas, encore une fois, il y a des études qui ont montré que quand on dort pas, on sécrète du cortisol parce que c'est stressant pour le corps. Le cortisol, comme on l'a dit, c'est notre ennemi numéro un pour dormir. Vraiment, c'est celui qu'il faut sécréter le moins. À ce moment-là, en tout cas. Pour le réveil, c'est parfait. Mais au moment de l'endormissement, le cortisol, c'est notre ennemi numéro un. Le problème, c'est que plus l'enfant va être fatigué, plus il va sécréter du cortisol et plus ça va être dur de dormir. Et après, on rentre vraiment dans un cercle infernal. Et après, le but, ça va être de le faire dormir peu importe où, peu importe comment, parce qu'il va être tellement fatigué que ça va devenir de plus en plus difficile de le faire dormir. Il y en a qui appellent ça une dette de sommeil. J'aime pas dire dette de sommeil, parce que ça veut dire qu'on doit quelque chose. Mais en tout cas, le fait de pas dormir assez, il va se lever hyper tôt et on va pas comprendre pourquoi. Donc, le coucher trop tard, c'est pas la solution. Le mieux, ce serait tous les soirs, même le week-end à la même heure, pour continuer à instaurer le rituel et la routine. Et en plus de ça, parce que comme ça, le cerveau va enregistrer qu'à telle heure, c'est le moment de dormir. et que après, bah, à telle heure, c'est le moment de se réveiller, quoi. Donc, ça comme piège, et de faire sauter des siestes quand ils sont pas prêts.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Mon invité et moi-même espérons avoir répondu à bon nombre de vos questions. Si des questions restent en suspens, sachez que le prochain épisode, qui sortira dans 15 jours, sera à nouveau consacré au sommeil. Nous y parlerons principalement de ce qui peut gêner bébé pendant son sommeil, les causes de réveil nocturne, mais aussi les régressions qu'il peut rencontrer lors de ses apprentissages du bien dormir. Pour ne pas manquer la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner directement sur votre plateforme d'écoute, ou bien via les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, en tapant « Naître et grandir aujourd'hui », tout attaché. Aujourd'hui, je laisse le mot de la fin à mes deux enfants. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et de votre bout de chou.
Merci. Bye bye. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.